DW. Le journal.
Bienvenue sur la DW alors qu'il est 17h en temps universel, à 19h dans nos studios de Bonn en Allemagne. Dans ce journal, nous irons dans le sud à Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, où l'inquiétude est grande chez certaines communautés avec le départ prochain de la MONUSCO, la mission de l'ONU dans le pays. Nous serons également au Mali où une centaine de civils sont depuis près d'une semaine aux mains des djihadistes dans le centre du pays. Le mécontentement est grand dans la région face à la dégradation de la situation sécuritaire. L'ouverture aujourd'hui à Abuja au Nigeria d'un sommet consacré à la lutte contre le terrorisme. Et puis, l'Allemagne rend hommage aujourd'hui à un grand penseur, un philosophe, Emmanuel Kant, né il y a 300 ans. Résumé de sa pensée dans ce journal. Nous sommes bien le lundi 22 avril 2024. Georges Ibrahim Tounkara a ce micro. Tout d'abord, le bulletin d'information avec Sandrine Blanchard. Bonsoir.
Bonsoir. Le chef du renseignement militaire israélien a démissionné, le général Haliva, c'est son nom, d'y assumer sa responsabilité dans l'échec à prévenir l'attaque sanglante du Hamas. Cette attaque terroriste perpétrée le 7 octobre est à l'origine de la guerre dans la bande de Gaza. Dans la journée, les bombardements israéliens ont continué sur des camps palestiniens dans le centre de la bande de Gaza, ainsi que sur les villes de Rafah et Khan Younes situées dans le sud. Hier, la défense civile a affirmé avoir exhumé au moins une cinquantaine de corps de Palestiniens dans la cour de l'un des plus grands hôpitaux du territoire. Ce soir, un autre responsable de Gaza dit qu'il s'agirait d'environ 200 corps exhumés. Les négociations sur une trêve sont au point mort. Les deux camps israéliens et palestiniens s'accusent mutuellement de les empêcher d'aboutir.
Des experts de l'ONU accusent l'Agence pour les réfugiés palestiniens de manquer de neutralité dans la bande de Gaza.
L'UNRWA a des problèmes de neutralité politique, mais Israël doit encore fournir la preuve que certains de ses membres sont prétendument liés à des organisations terroriste. Voilà en substance ce que conclut le rapport remis aujourd'hui même au secrétaire général des Nations Unies. Les rapporteurs ont constaté que certains employés du personnel de l'agence expriment publiquement leurs opinions politiques notamment. Ils soulignent toutefois que l'UNRWA est irremplaçable et indispensable aux Palestiniens. La Russie revendique d'avoir repris un village dans l'est de l'Ukraine, au sud-ouest de la ville de Donetsk. Par ailleurs, la tour de télévision de Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, a été détruite après une frappe russe. La frappe n'a pas fait de victimes. L'armée ukrainienne craint de subir des revers plus nombreux à partir de la mi-mai en raison d'une pénurie de recrues et de munitions.
Les trois quarts des pays et territoires de la planète ont été touchés en 2023 par l'utilisation d'armes explosives.
Et l'ONG Handicap International s'en inquiète dans son rapport annuel. Ces armes auraient causé l'année dernière un niveau de dégâts sans précédent sur les infrastructures civiles et les populations. Le nombre de civils tués en 2023 est en hausse de 122% par rapport à l'année précédente. En forte hausse également, les attaques contre les infrastructures de santé, d'aide humanitaire ou encore d'éducation. La Commission européenne a ouvert une enquête sur la nouvelle application TikTok Lite. Bruxelles menace de suspendre dès jeudi cette fonctionnalité du réseau social chinois car elle propose des récompenses aux utilisateurs qui restent connectés plus longtemps. Selon les autorités européennes, ce mécanisme présente, je cite, des risques graves pour la santé mentale des utilisateurs dont elle tend à encourager la dépendance aux écrans.
La justice allemande a annoncé l'arrestation de trois personnes soupçonnées d'espionnage pour la Chine.
Oui, une affaire d'espionnage dans le secteur militaire qui fait écho à la découverte récente d'un projet de sabotage pour le compte du Kremlin. Deux des personnes arrêtées formaient un couple. Leur entreprise basée à Düsseldorf servait d'intermédiaire pour la coopération avec le monde scientifique et la recherche. Ils auraient conclu un accord de transfert de données avec une université allemande. La troisième personne arrêtée se serait servie du couple pour transmettre à un agent du ministère de la Sécurité de l'État chinois des informations volées sur son lieu de travail concernant des technologies innovantes.
Et Sandrine, si je vous dis critique de la raison pure, vous me répondrez quoi ?
Emmanuel Kant, bien sûr. Le philosophe est né il y a 300 ans, jour pour jour, en 1724, dans ce qui était encore la Prusse orientale. Emmanuel Kant, c'est un penseur du jugement et de la vertu morale. Le gouvernement allemand lui rend hommage ce soir. Olaf Scholz, le chancelier allemand, participe à ces festivités. Il a refusé à Vladimir Poutine, Olaf Scholz, dans son discours lors de ces célébrations, le droit de se référer à Emmanuel Kant. Le président russe l'aurait cité au moins deux fois en 2005 et en 2024 pour tenir des propos contradictoires et surtout, selon Olaf Scholz, des propos contraires à la pensée du philosophe.
On reviendra donc sur cette grande figure de l'Allemagne, Emmanuel Kant, dans la suite de ce journal. On termine par le Gabon. La fille aînée du président défunt, Omar Bongo, a été relaxée par le tribunal correctionnel de Paris.
Et oui, Pascaline Bongo comparaissait pour corruption passive d'agents publics étrangers. C'était au début des années 2010 au Gabon. Dans cette affaire, ont déjà comparu en début d'année la société d'ingénierie française Aegis et trois de ses anciens cadres, ainsi que l'homme d'affaires gabonais Frank Ping et l'avocate Danielle Palazzo-Gauthier. Mais tous ont été relaxés.
Le bulletin d'information, c'était Sandrine Blanchard. Sandrine, qu'on retrouvera donc dans une dizaine de minutes pour parler cette fois d'Emmanuel Kant. Voilà, de philosophie. Il est 17h05 en temps universel, 19h05 dans nos studios d'ici à Bonn en Allemagne.
DW.
Tout d'abord, la Centrafrique, avec ce drame survenu dans le pays vendredi dernier, le naufrage d'une embarcation dans la rivière Mpoko à Bangui. 58 morts selon un bilan communiqué samedi par la protection civile. La baleinière transportait environ 300 passagers, mais le nombre de victimes pourrait augmenter. Les recherches de personnes portées disparues se poursuivent et aucun bilan définitif n'a encore été publié. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a décrété ce lundi un deuil national de 3 jours en hommage aux victimes de ce naufrage. Le lundi 22, mardi 23 et mercredi 24 avril 2024 sont déclarés jours de deuil national sur l'étendue de la République centrafricaine selon un décret présidentiel diffusé à la radio publique. En République démocratique du Congo voisine, de la Centrafrique, ce sont les armes qui continuent d'endeuiller. Les groupes armés sévissent toujours dans l'est du pays, aussi bien dans le nord que dans le sud Kivu. Le sud Kivu qui se prépare à faire face au départ de la composante militaire de la MONUSCO, la mission de l'ONU. Pour rappel, cette page onusienne se tourne à la demande du gouvernement congolais, notamment après plusieurs manifestations violentes contre la présence de la MONUSCO, à laquelle certains Congolais reprochaient son inaction face aux groupes armés. Mais est-ce que tous les Congolais sont aujourd'hui satisfaits de cette décision? Dans le sud Kivu, certaines communautés comme les Bayamulenge se sentent encore menacées. Notre correspondant Paul Lorgiri est allé à leur rencontre.
Mikenge, sur les hauts plateaux du sud Kivu, en contrebas du village, se trouve un site de déplacés de 2500 personnes, tout appartenant à la communauté Banyamulenge. Philemon Tshiza en fait partie.
Nous sommes ici pour la cause de l'insécurité. Donc c'est la guerre. Les Maïmaï nous ont attaqués dans des villages et nous ont ravi les bêtes, les choses qu'on avait. Et nous sommes déplacés ici, près de la MONUSCO.
Ce que ce pasteur de 64 ans craint, c'est le retour de la violence dans la région, bien que à l'heure actuelle, les relations avec les autres communautés sont apaisées dans Mikenge et ses alentours. Car depuis 2017, les tensions entre les quatre ethnies occupant les hauts plateaux ont repris de plus belle, et les Banyamulenge y sont au centre. Souvent affiliés aux Tutsi rwandais, la plupart des personnes des environs les considèrent comme des étrangers, ce que rejette Philemon Tshiza.
Je suis né ici, mon papa est né ici, le papa de mon papa, le grand-père est né ici aussi. Donc je suis natif d'ici et je suis congolais.
Seulement voilà, dans leur rapport de janvier 2024, les experts des Nations Unies ont établi un lien entre le M23 soutenu par le Rwanda et les Tui Rwaneo, principal groupe d'autodéfense des Banyamulenge. Des connexions prouvées selon Josaphat Moussamba, chercheur et spécialiste des dynamiques des groupes armés dans le sud Kivu. Pour autant, si le soutien du M23 aux Tui Rwaneo n'est pas surprenant, des rumeurs d'alliance avec le chef de guerre Ebouela qui se bat pour le départ des Banyamulenge poussent sur les cimes des hauts plateaux. Une alliance contre nature qui n'est cependant pas impossible pour le chercheur.
C'est antinomique par rapport à ce qu'on connaît, mais ce n'est pas non plus impossible. Les changements des alliances, les remodelages d'alliances dans ces zones-là, ça joue beaucoup, ça joue beaucoup.
Quoi qu'il en soit, le chercheur craint que, après le départ de la MONUSCO, les groupes armés présents dans la région des Hauts Plateaux ne se réapproprient de nouveau l'espace au détriment des populations civiles. Paul Lorgerie, de retour de Mikenge pour la Deutsche Welle.
La République démocratique du Congo, qui a plus que doublé ses dépenses militaires à 794 millions de dollars, la plus forte hausse mondiale pour faire face aux tensions croissantes avec le Rwanda, c'est ce que dit le rapport sur les dépenses militaires mondiales de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, le CIPRI, publié ce lundi. Et Wendy Bashi, qu'en disent nos abonnés sur les réseaux sociaux ?
Pour Bazema au Burkina Faso, c'est normal car, selon l'internaute, les fabricants d'armes sont responsables des conflits un peu partout dans le monde. Il estime que cela leur permet de vendre leurs produits. Il y aura la paix dans le monde le jour où l'être humain arrêtera de fabriquer les armes, les bombes et autres, au détriment des tracteurs agricoles pour agir et avoir un impact sur l'autosuffisance alimentaire. Noah, depuis le Cameroun, s'offusque que ce rapport du CIPRI mentionne des pays qui, je cite, « sont sans infrastructure, avec un fort taux de chômage et un système éducatif déplorable ». Il ne comprend pas comment ces pays arrivent à doubler les dépenses militaires. C'est le comble de la stupidité politique, conclut Noah. Paul Delomé se demande à qui la faute. Cela ne fait pas longtemps. Ombre d'un doute, l'Afrique doit se réveiller. Malgré cette augmentation au niveau des dépenses militaires sur le terrain en RDC, il n'y a aucun impact, s'offusque Désiré de Kinshasa. Et selon les chercheurs de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, les dépenses militaires mondiales ont atteint un sommet et pour la première fois depuis 2009, elles ont augmenté sur les 5 continents. Le rapport précise que cela reflète la dégradation de la situation de la paix et de la sécurité dans le monde.
Wendy Bashi, qu'on retrouvera dans quelques instants pour un nouveau tour des réseaux sociaux. À Kinshasa, il est 18h11, 17h11 à Bamako et en temps universel.
Vous écoutez la DW.
Au Mali, les populations de Bankass et de Bandiagara ne cachent plus leur mécontentement face à la dégradation de la situation sécuritaire dans le pays Dogon. Celle-ci multiplie les actions contre le blocus imposé sur la RN15 la semaine dernière ou encore des communiqués pour dénoncer l'insécurité qui règne dans leur zone. Plusieurs bus ont été récemment attaqués par des groupes armés terroristes et leurs passagers pris en otage. On compte une centaine de personnes prises en otage. Leurs proches se disent sans nouvelles d'elle, les explications de Mahamadou Kane, notre correspondant à Bamako.
Installation d'un camp militaire, quadrillage de la zone par l'armée malienne et libération des otages, c'était les conditions posées par les habitants du cercle de Bankass pour lever le blocus sur la route nationale 15. Jeudi et vendredi dernier, les accès à cet axe stratégique ont été bloqués par de jeunes manifestants qui protestaient ainsi contre la multiplication des attaques visant notamment les bus de transport. Mamoutou Guindo, du comité local des jeunes de Bankass, explique aussi que les représentants de Bankass n'ont pas pris part à la phase régionale du dialogue intermalien qui s'achève ce lundi.
Nous pensons que participer à ce dialogue n'a pas de sens parce que chaque fois que nous participons vraiment à telle rencontre par rapport à la cohésion, au retour de la paix, tant d'autres, c'est en ce moment même qu'on nous attaque, c'est en ce moment que vraiment on enlève vraiment les otages.
Sungalo Tesugé, un autre habitant de Bankass, a un proche parmi les personnes enlevées par les groupes armés. Celui-ci parle d'un sentiment d'abandon.
Nous sommes laissés à nous-mêmes. Il n'y a même pas de secours. Personne ne parle de ça. Tout le monde est sourd et muet sur la situation actuelle des personnes enlevées depuis 2021, en 2023, jusqu'à présent en 2024.
Les forces vives de la région de Bandiagara ont, dans un communiqué publié vendredi dernier, dénoncé, je cite, la persistance des attaques terroristes, les récents enlèvements et prises d'otages des civils, le nombre croissant des déplacés et l'inaction des forces armées et de sécurité. Amadou Lougué est le président de l'association des jeunes de Bandiagara.
Notre objectif, c'est de demander plus de sécurité. Voilà. Il faudrait que les autorités nous comprennent dans ce sens. Et nous sommes les Maliens, tout le monde a droit à la sécurité comme les autres Maliens. Donc nous sommes dit que c'est un moyen pour nous de mettre la pression sur les plus hautes autorités pour au moins assurer notre sécurité.
Les habitants de Bankass prévoient un nouveau blocus ce mercredi 24 avril sur la RN15 si leurs revendications ne sont pas satisfaites entre-temps. Nous avons cherché à contacter sans succès un responsable de la commission défense et sécurité du CNT, l'organe législatif de la transition. Mahamadou Kane, Bamako pour la Deutsche Welle.
l'insécurité au centre et au nord du Mali. Situation sécuritaire aussi préoccupante au Niger, où les États-Unis ont donc accepté finalement de retirer leurs 1100 militaires stationnés sur la base aérienne d'Agadez, c'est dans le nord du Niger. Une base construite par les Américains pour lutter contre les groupes djihadistes. Ce retrait américain fait suite à une demande de la junte militaire au pouvoir à Niamey, accompagnée par des manifestations hier dimanche à Agadez. Les explications de Fréjus Kenom.
Il y a eu d'abord la base militaire 101 située à l'aéroport de Niamey et partagée avec la France, que les Américains ont évacuée peu de temps avant le départ des soldats français et qui n'a accueilli qu'une centaine d'hommes. Car les États-Unis ont construit à partir de 2016 dans les environs d'Agadez, à 940 km de Niamey, la base aérienne 201 qui aurait coûté entre 110 millions et 250 millions de dollars selon les estimations. Cette base de drones constituait un atout militaire majeur pour les Américains en termes de renseignement et d'identification des groupes terroristes dans cette région du Sahel. Le retrait américain signifie également une perte d'influence des États-Unis dans le Sahel, car depuis le Niger, les Américains contrôlaient aussi le Mali, le Burkina Faso, le Soudan et la Libye. Par ailleurs, leur départ devrait laisser le champ libre à la Russie, déjà présente militairement au Niger. La base d'Agadez accueille 1100 soldats américains. Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il adviendra de celle-ci après leur départ. En revanche, Washington envisagerait de se tourner vers d'autres pays tels que le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Bénin pour y accueillir des drones de reconnaissance.
Fréjus Kenom sur la DW, la radio internationale allemande. Et c'est pour trouver des réponses au terrorisme que plusieurs pays africains sont en sommet aujourd'hui et demain à Abuja au Nigeria. Un sommet ouvert par le président nigérian Bola Tinubu. La situation est inquiétante dans certains pays, notamment ceux du Sahel, où des groupes armés contrôlent des pans entiers de territoire. Hassan Kone, chercheur à l'Institut d'études de sécurité à Dakar, au Sénégal, rappelle que des efforts sont faits par les différentes armées. Mais il manque encore la mutualisation des moyens entre les pays du continent. C'est ce qu'il a dit à Koussivi Tiassou.
Dans ces pays-là, il y a eu quand même un effort immense qui a été fait dans le cadre de l'amélioration des capacités. Je dirais même une sorte de montée en puissance, parce qu'en fait, aujourd'hui, les armées sont dotées quand même d'assez de vecteurs aériens, d'assez de véhicules, d'assez de moyens pour combattre. Et ça les amène à faire du résultat, c'est indéniable. Mais aussi, il ne faut pas oublier que les groupes aussi extrêmement violents qui sont actifs ont eux aussi développé une capacité de résilience.
Mais la question que beaucoup se posent, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les États africains à s'unir pour lutter efficacement contre ces terroristes? Qu'est-ce qui les empêche?
Je parlerai beaucoup plus de volonté politique. Il y a des idées qui sont lancées. Il y a l'AES qui parle de mettre en place une force conjointe. On avait vu la force conjointe du G5 Sahel. Elle n'avait servi à rien. Il y a, au niveau de l'initiative d'Accra, on parle depuis quand d'une force conjointe, d'une force aussi de 10 000 hommes qu'on devait mettre à Tamale. Et où cette force? Il y a quelque chose qui manque. Il y a en fait une volonté réelle politique de nos dirigeants de se mettre ensemble et de savoir que il est possible de mener ce combat militairement, mais aussi, comme je vous ai dit, il faut une approche non militaire à ce problème. Cette approche non militaire, c'est de voir quelles sont les causes.
Cette réunion d'Abuja, n'est-ce pas une réunion de plus si les pays, malgré les rencontres précédentes, n'arrivent pas à mutualiser leurs efforts?
C'est une réunion de plus ou même une réunion inutile, en fait. Si les gens ne vont pas de manière déterminée, de manière résolue, de manière engagée, à se mettre ensemble et à comprendre qu'il y va de la sécurité de tous nos États, il y va de la stabilité, il y va des conditions de développement et d'épanouissement des populations si on ne se met pas ensemble.
Hassan Kone, chercheur à l'Institut d'études de sécurité à Dakar au Sénégal, qui répondait aux questions de Koussivi Tiassou. Et puis j'ajoute, concernant le sommet d'Abuja, il y a ces déclarations, notamment la déclaration d'Amina Mohamed, secrétaire générale adjointe des Nations Unies. La situation en particulier au Sahel est désastreuse. La région représente désormais près de la moitié de tous les décès dus au terrorisme dans le monde. C'est ce qu'a notamment déclaré Amina Mohamed, secrétaire générale adjointe des des Nations Unies. Le président togolais Faure Gnassingbé a par ailleurs appelé la communauté internationale à aider davantage les pays africains à financer leurs opérations de lutte contre le terrorisme. Le ministre nigérian des Affaires étrangères s'est dit pour sa part très inquiet au sujet des millions d'armes légères qui se trouvent dans les mains des belligérants. Mais il a ajouté que les États africains étaient également confrontés à de nouveaux défis dans la lutte contre les djihadistes, des défis tels que l'impact du changement climatique, la rupture de la coopération avec certaines nations, les fake news, des médias sociaux et les transferts d'argent non réglementés par le biais de la crypto-monnaie. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur ce sommet. Et concernant encore le Nigeria, 6 soldats nigériens ont été tués dans une embuscade dans le centre du pays où l'armée lutte contre des gangs criminels.
Jeunesse, mode, sexualité, création artistique, défi, espoir, sans filtre et sans tabou, rejoignez-nous sur youtube.com/DWAfrique.
17h20 à Lomé, au Togo et en temps universel. Au Togo, à moins de 10 jours des élections régionales et législatives, les députés ont définitivement adopté en fin de semaine dernière une nouvelle constitution. Le texte qui fait passer le pays d'un régime présidentiel à un régime parlementaire est contesté par une partie de l'opposition qui accuse le président Faure Gnassingbé d'utiliser cette réforme pour rester au pouvoir. Réliou Koubaké.
La nouvelle loi fondamentale qui doit encore être promulguée par le président Faure Gnassingbé acte aussi la disparition du suffrage universel direct dans le mode d'élection du président de la République. Celui-ci ne jouera plus qu'un rôle honorifique puisque l'essentiel du pouvoir sera concentré entre les mains du président du Conseil des ministres, une sorte de super premier ministre disposant de larges pouvoirs et qui sera obligatoirement le chef du parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Plusieurs opposants affirment que cette réforme est un subterfuge pour maintenir le plus longtemps possible le président Faure Gnassingbé au pouvoir depuis 2005. En effet, la nouvelle constitution ne limite pas le nombre de mandats du président du Conseil. Une inquiétude que partage aussi Clément Kloutse, parlementaire suppléant du parti conservateur CDU au Parlement régional de Hambourg, dans le nord de l'Allemagne, et originaire du Togo.
Puisque c'est lui qui va détenir tous les pouvoirs, notamment économiques, militaires, institutionnels. Et je suis parti du Togo justement à cause d'un système qui n'a jamais voulu la permanence dans le pays.
Selon l'Union pour la République unie, le parti au pouvoir, le régime parlementaire permettra toutefois de réduire la puissance du président de la République et fera en sorte que les députés soient en mesure d'interpeller le nouveau chef du gouvernement, le président du Conseil des ministres. Paul Amegapo, président de l'Institut Tamberma pour la gouvernance.
Ceci, selon eux, permettrait au chef de l'exécutif d'être plus au bain des réalités et des priorités des citoyens qui seront remontées par les députés élus du peuple.
Selon la nouvelle constitution, le président, désormais sans grand pouvoir, sera élu sans débat par les députés pour un mandat de 4 ans renouvelable une fois. Paul Amegapo estime toutefois que ce régime parlementaire en voie d'expérimentation ne pourra satisfaire la volonté de changement du peuple togolais.
L'aspiration profonde du peuple togolais, c'est de voir s'opérer à la tête de l'État togolais une alternance politique par le changement de personnalité ou alternance politique par le changement de formation et de régime politique.
La plupart des pays africains de l'espace francophone ont opté pour un régime présidentiel ou semi-présidentiel. Toutefois, des pays comme l'Éthiopie, Maurice ou encore la Somalie ont des régimes parlementaires.
Rilou Koubakin. En plus bref, le méga oléoduc qui relie le Niger au Bénin, mis en service il y a quelques semaines, sert déjà le Bénin. La station terminale de Sémé a accueilli hier dimanche la précieuse cargaison, le pétrole nigérien. Le Bénin touchera des droits de transit et des recettes fiscales importantes en fonction de la quantité exportée. Les estimations restent toujours sur une production de 90 000 barils par jour. Il vivait à une époque où les prénoms étrangers étaient souvent francisés par les Français. C'est pourquoi vous avez sans doute entendu parler de lui sous le nom d'Emmanuel Kant. En réalité, ce penseur né au XVIIIe siècle s'appelait Immanuel avec un I. Ce n'est toutefois pas pour son prénom qu'Emmanuel Kant est entré dans l'histoire, mais bien en tant que philosophe. Sa pensée, une morale du devoir, a marqué son époque, celle des Lumières, et elle continue d'imprégner les générations qui l'ont suivi jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi le gouvernement allemand rendait hommage aujourd'hui à l'occasion des 300 ans de sa naissance à l'auteur de La critique de la raison pure et de La critique de la raison pratique. Mais qui est Emmanuel Kant? Comment résumer sa pensée? Sandrine Blanchard, vous avez 2 minutes pour nous éclairer.
Emmanuel Kant est né le 22 avril en 1724 dans la ville de Königsberg, située dans ce qui s'appelait encore la Prusse orientale, mais qui correspond à la Kaliningrad d'aujourd'hui, une enclave russe entre la Pologne et la Lituanie. Un lieu qu'Emmanuel Kant est réputé n'avoir jamais quitté de sa vie. Emmanuel Kant qui sera d'ailleurs durant toute son existence un homme d'habitude bien réglé, comme avec sa fameuse promenade quotidienne à heure fixe. Empreint d'un protestantisme rigoureux, le piétisme, Emmanuel Kant s'intéresse tôt aux mathématiques, à la physique de Newton, à la morale. Sa pensée vise à définir d'ailleurs une morale universelle, valable en tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances. Il compte parmi les grandes figures de ce qu'on a appelé les Lumières. Alors au cœur de sa pensée, il distingue deux sortes d'impératifs moraux. D'abord, l'impératif hypothétique, le « si je veux atteindre tel but, alors « je dois faire cela ». Mais pour Kant, ce qui fait la valeur morale d'une action, ce ne sont pas les conséquences de cette action, mais bien son intention. On en arrive alors à la deuxième sorte d'impératif défini par Kant, l'impératif catégorique. Il répond, lui, à ce principe « agis de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée par ta volonté en une loi universel. C'est plus facile à comprendre que ce qu'il y paraît à première vue. Ça veut dire simplement que quand j'agis, je dois me demander si un monde dans lequel tous les autres individus se comporteraient comme moi est possible. Si la réponse est oui, alors mon action est conforme à la morale. Petite précision toutefois, nous l'avons dit, Kant vit à cheval entre le 18e et le 19e siècle. Le concept d'universalité qu'il défend ne l'empêche pas d'avoir des préjugés racistes, notamment vis-à-vis des personnes de peau noire. Mais sur ce point, il évolue. En 1775, dans son essai « Des différentes races humaines », il estime que la couleur de la peau est une simple caractéristique physique qui n'augure en rien des capacités intellectuelles d'un individu, puisque tous les humains, selon lui, seraient issus d'une même souche. C'est ce qui fait qu'il a été présenté longtemps comme l'un des premiers penseurs des droits humains universels.
Merci Sandrine pour ce petit résumé sur Emmanuel Kant. Aujourd'hui, 22 avril, on célèbre la Terre, planète contre plastique. Tel est le thème de cette journée spéciale qui vise à sensibiliser aux effets néfastes de la pollution plastique sur la santé humaine et planétaire. Sur les réseaux sociaux, nous vous avons demandé ce que vous faites pour lutter contre la pollution plastique. Wani Bashi, que disent nos abonnés?
Alors oui, selon Sadou qui commente sur notre page Facebook depuis le Cameroun, pour lutter contre la pollution du plastique, le gouvernement doit adopter une loi interdisant l'importation et l'utilisation du sachet plastique dans les activités quotidiennes et créer un fonds pour motiver les ramasseurs de plastique prévus à cet effet. Pour notre abonné, bien que dans certains pays, en Afrique subsaharienne, on adopte des lois pour interdire l'importation des sachets plastiques, la difficulté réside dans l'application de ces lois qui restent pour le coup sans impact. Noah au Cameroun propose deux solutions. Primo, pour lutter contre les sacs plastiques, il faudrait définitivement fermer les usines qui les produisent. Secondo, pour réduire la pollution plastique, il faudrait apprendre aux pollueurs à ne plus polluer. Et enfin, Charles, depuis Ouagadougou au Burkina Faso, souligne que l'homme est l'unique responsable de la dégradation de la nature. En plus de la détruire avec les déchets plastiques, il la détruit à la recherche de l'or et d'autres minerais. Ça triste l'internaute.
DW. Le sport. Fiat Ndaïra Guidje.
En football en Europe, le week-end a été marqué par le Classico en Espagne et la demi-finale de la Coupe en Angleterre. Fiat Ndaïra Guidje.
Opposé à Coventry, pensionnaire de deuxième division, Manchester United a toutefois beaucoup souffert pour arracher son billet pour la finale. Le milieu de terrain de Manchester United, le Brésilien Casemiro, pense que son équipe n'a pas fait preuve d'un bon état d'esprit vers la fin du match.
C'est difficile à expliquer et cela arrive assez souvent à notre équipe. Je dirais que pendant 70 à 75 minutes, le match a été calme et contrôlé pour l'équipe. Puis l'équipe a paniqué et nous avons perdu le contrôle du match.
Accroché par Coventry 3-3, Manchester United a fini par s'imposer au terme des tirs au but 4-2. La 32e journée de la Liga en Espagne a été marquée par le choc au sommet entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Le Real Madrid s'est d'ajuster s'imposer 3-2, une victoire qui permet au Real Madrid de creuser l'écart de 11 points sur son poursuivant barcelonais. Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid.
Bien sûr, c'est une étape importante vers la victoire en Liga car nous avons désormais beaucoup d'avance. Évidemment, nous devons rester vigilants car la Liga n'est pas finie. La meilleure façon de préparer aussi les demi-finales de la Ligue des Champions.
La semifinale qui llega pronto.
Il faut noter que le Real Madrid a remporté hier son 104e match du Classico contre 99 gagné par son rival le FC Barcelone. Et les deux formations se sont neutralisées à 52 reprises dans l'histoire des confrontations entre les deux principaux clubs du football espagnol.
Vous êtes sur la DW, la radio internationale allemande, à retenir dans ce journal la Centrafrique, deuil national de 3 jours en hommage aux victimes du naufrage de vendredi dernier, une cinquantaine de morts. Et puis le Mali où le mécontentement est grand dans le centre du pays, une centaine de civils ont été enlevés depuis près d'une semaine. Sur la DW, il est 17h30 en temps universel. Place à présent au magazine Essakou Sivitiasou qui s'installe pour le magazine Environnement.